Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2022. Mon nom est Aboussal, je suis très content de vous retrouver après une bonne pause depuis notre dernier épisode de podcast. Et ça tombe bien, on revient pour parler de la dernière course avant notre fameux Grand Prix du Canada, la course à la maison. Et pour parler de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan et à Bakou, j'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau qui est avec moi. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou, comment tu vas?
Ça va bien. J'ai encore un peu du mal à me réveiller parce que je me suis levé à 6h59 et la course a commencé à 7h, heure du Québec. Donc,
heureusement qu'il y a le tour de chauffe juste avant sur un circuit qui est très long.
Heureusement, c'est pas une course de Formule E parce que sinon, j'aurais été un peu triste.
Oui, tu aurais tout manqué.
Exactement. Mais Dieu merci, le départ était correct. Mais on va vous donner le résultat du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, en 1h34, ça a été qui est quand même rapide pour un Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Pas de voiture de sécurité en présentiel, uniquement virtuel deux fois quand même.
Ouais, hein, c'est quand même fou. Donc, c'est vraiment excellent.
Le fameux crash gate, comme tu aimes bien le mentionner à propos de Bakou, ne s'est pas.
Non, c'était vraiment pas un crash fest. Un drapeau rouge seulement durant tout le week-end.
Moi, j'ai envie de te dire que c'est l'exception.
C'est l'exception à la règle. Donc, voyons voir ce que ça va donner pour 2023. Pardon. Donc, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan devant son coéquipier Sergio Perez à plus de 20 secondes d'avance. Ensuite, on a George Russell, troisième. Donc, un troisième podium pour le pilote britannique cette saison. Lewis Hamilton, quatrième. Pierre Gasly sur l'AlphaTauri, cinquième. Sébastien Vettel sur la Aston Martin, sixième. Fernando Alonso, septième. Daniel Ricciardo finit devant Lando Norris pour une des rares fois cette saison. En fait, donc 8 et 9 pour les deux pilotes McLaren. Et Esteban Ocon termine dixième. On a eu 6 pilotes qui n'ont pas complété la course. Non, pardon, 5.
5?
5, j'ai...
Faut pas qu'on se... Nicolas Latifi, malgré ses deux pénalités, a terminé le Grand Prix. Faut quand même le souligner.
Oui, exact.
Mais il termine bon dernier.
Exactement. Donc, Latifi compte dans le classement. Oui. Mais on a perdu Lance Stroll, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu et étonnamment, les deux Ferrari sur des problèmes de fiabilité. Et on va en reparler justement. Charles Leclerc et Carlos Sainz qui ont abandonné. Et 4 des 5 abandons sont des moteurs Ferrari. Donc, c'est pas une bonne journée pour être un pilote au moteur Ferrari, au moins.
Visiblement, 3, c'est des problèmes moteurs. Celui de Sainz, visiblement, c'est pas ça. Là. C'est un brake-by-wire malfunction.
Oui, c'est vrai. Donc,
oui, c'est un problème de frein.
Oui, c'est un problème de frein. Donc, ça compte pas. Donc, c'est pas...
C'est quand même 3 moteurs.
C'est quand même 3 moteurs, ça fait mal. Et pire que ça, là, Le Mans, Ferrari n'est même pas premier. Donc, c'est pas une bonne journée pour Ferrari du tout. Alors, Jean-Sébastien, on va faire comme à l'habitude, nos évaluations post-Grand Prix. Donc, as-tu... une performance au top, une contre-performance et un moment cocasse?
La performance au top, c'est un petit peu difficile parce que lorsque j'ai vu le pilote du jour qui était déclaré en étant Lewis Hamilton, je trouvais ça un petit peu étonnant. Je me suis dit, il termine quand même dans le top 5 en terminant quatrième. C'est pas exceptionnel, c'est ce qu'on s'attend à peu près des Mercedes. C'est vrai que le week-end n'a pas très bien commencé. Ouais. C'est vrai que les problèmes de marçonnage sur la Mercedes étaient quand même très importants. Hamilton a parlé de problèmes assez graves. On l'a vu finalement avoir beaucoup de difficultés à sortir de la voiture. Finalement, je me suis ravisé en disant « Ouais, finalement, peut-être qu'il mérite assez bien, Lewis Hamilton. Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne performance pour lui. » Mais finalement, je l'ai donné à Pierre Gasly. Malheureusement, j'ai un petit peu mal suivi son parcours pendant le Grand Prix. C'est juste à partir de la mi-course, je l'ai vu assez bien placé. Je me suis dit « Oh, il se passe quelque chose. » Donc, j'ai un petit peu manqué ce qui s'est passé pour lui, mais... saison assez décevante jusqu'à là. La voiture est peut-être pas au niveau, mais ce week-end, visiblement, Pierre Gasly était dans le bon rythme. Yuki Tsunoda aussi a connu un bon Grand Prix jusqu'à ce que son aileron arrière décide à moitié de s'ouvrir et qu'on lui mette du duct tape. J'y reviendrai dans un instant. Donc, je vais le donner à Pierre Gasly pour des raisons qui m'échappent un peu, qui est un petit peu évanescent mais pour moi, mais qui, pour d'autres, parleront davantage. Je pense que Pierre Gasly a fait une très bonne course en terminant cinquième. Il ne pouvait espérer mieux aujourd'hui.
Ouais, exactement. Moi, je suis d'accord. Pierre Gasly mérite amplement ta considération parce que cette saison, c'est pas fameux pour le Français. Non seulement il était derrière Tsunoda au classement des pilotes avant Azerbaïdjan, mais a eu son lot de malchance. Alors, Azerbaïdjan, c'est vraiment le bon moment pour lui d'avoir une bonne performance, surtout que l'année dernière, il avait fini sur le podium lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. D'Azerbaïdjan. As-tu une contre-performance?
Ouais, la contre-performance, ça c'est plus compliqué. Il fallait voir dans les bas-fonds des classements puis se déterminer qui le mérite le plus entre soit l'équipe Ferrari ou le moteur Ferrari. Dans l'un ou dans l'autre, ça revient à Ferrari pour l'ensemble de l'œuvre, je pense. Les moteurs qui ont été pas au top, c'est vrai que c'est la piste qui est une des pistes les plus exigeantes pendant le championnat de Formule 1, mais n'empêche, le moteur est censé pouvoir durer. Enfin, les composantes qui forme le bloc moteur et tout le reste est censé être capable de durer. Donc, contre-performance là-dessus, contre-performance et à l'équipe en tant que telle pour le double abandon moteur pour Leclerc et la déficience des câbles de frein pour Carlos Sainz. Mm-hmm. C'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable pour une équipe qui veut être championne du monde. Ouais. Après le Grand Prix d'aujourd'hui, elle se trouve maintenant à 80 points derrière Red Bull. C'est considérable. Ça commence à être considérable. C'est vrai que c'est une saison de 22 Grands Prix, mais à ce stade-ci, on ne peut pas avoir 80 points. Oui, on l'a vu l'année passée, à un moment donné, Verstappen menait par plus de 40 points et s'est fait rattraper jusqu'au dernier Grand Prix où les deux étaient à égalité, mais c'est considérable. Perez est en excellente forme. Il connaît sa meilleure saison à vie. Si Verstappen connaît quelques malchances, ils ont un super numéro 2 pour Perez pour essayer de jouer le championnat. Avant le début du Grand Prix, Helmut Marko a quand même dit « C'est le meilleur pilote qu'on a eu depuis Mark Webber. » Ce que j'aime bien, c'est la chose qu'il ne dit pas, c'est que c'est le meilleur pilote pour être numéro 2. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, ouais. En fait. C'est du Helmut Marko tout craché. Donc, quand il dit « C'est le meilleur pilote qu'on a depuis Mark Webber », parce que oui, c'est le meilleur deuxième. Oui. Donc, lorsqu'on additionne tout ça, oui, ça fait très mal pour Ferrari au final aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe. Et puis, il y a Sam Collins, qui est analyste dans F1 TV, qui vient pendant que tu parlais, de publier une photo du spot où Charles Leclerc a abandonné. Et ça coulait vraiment, là. Il y a des traces d'huile assez répandues sur la...
Ah oui, ça sent le bloc moteur. Hein.
Ouais. Je peux te le montrer directement là.
Ah oui, quand même, on le voit. Ah oui, on le voit bien sur l'image que tu me montres là. Allez voir ça sur Internet. Ouais. Il y a une bonne trace là. C'est pas une goutte.
Et je viens de retweeter ça sur mon compte Twitter @lebulletinJP. Donc,
Abdo, ta contre-performance aujourd'hui, toi, t'en as une? T'en as une autre à part que Ferrari?
À part que Ferrari, ben.
À la limite, Williams peut avoir touché la voiture quand il restait moins de 15 secondes avant le début du tour de chauffe.
Ouais!
C'est inacceptable. C'est tellement un règlement de base. Ouais. C'est ce qui est drôle parce que la FIA a réagi tellement rapidement pour donner des pénalités.
Ouais. Au moins, ça on va le donner, là.
En moins de 5 minutes, on savait qu'il y avait de la pénalité. Ça m'avait quand même assez étonné.
Ouais. Non, je dois dire, Williams a vraiment échappé, même si on savait que Latifi ne ferait pas grand-chose, malheureusement, là. Mais ça a juste ruiné sa course dès le départ. Donc, Williams mérite ma contre-performance. Quoique Alex Albon n'a pas si mal fait non plus, là. Mais c'est une course un peu solitaire pour lui. Sinon, j'ai honnêtement, à part Ferrari, j'ai pas d'autres contre-performances. Non, je vais vraiment donner ça à la fiabilité chez Ferrari. Et d'ailleurs, on va en reparler. Donc... Ouais, c'est assez difficile de trouver une contre-performance aujourd'hui autre que la Scuderia. As-tu un moment cocasse?
Je pense... Ben oui, on va rester avec la Ferrari. On l'a vu vers la fin du Grand Prix, lorsque la production télé a décidé de filmer les stands de Ferrari et aussi le muret, et on voyait qu'il n'y avait personne, ou les quelques personnes qu'il y avait étaient déjà avec leur gilet jaune en train de leur t-shirt jaune pour faire le démontage. Donc on voyait vraiment les personnes qui conduisent les camions, etc. C'est très cringe. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal pour les fans de Ferrari, ça fait mal pour les fans de Formule 1, mais soyons francs, c'est extrêmement drôle de montrer cette image-là.
Et surtout aussi...
Pour les mauvaises raisons.
Exactement. Et puis, surtout que la semaine prochaine, ben, c'est le Grand Prix du Canada, mais tu as quand même, si j'exagère pas, la deuxième plus grosse foule de tifosi du calendrier de Formule 1.
Oui, à l'extérieur de l'Italie, ils sont en terre ferrariste, là. Et là, les tifosi, ça va mal se passer.
Ça risque d'être douloureux, puis j'ai peur pour eux. Donc, imagine voir cette image si un autre double abandon devait arriver, là.
Oui, ça va mal se passer. Mais si Charles Leclerc gagne, par contre, avec la folie furieuse à Montréal. Oh. Un francophone qui gagne Montréal.
On n'avait pas vu ça depuis Jean Lézy, dont c'était l'anniversaire justement hier. Donc, Jean, si jamais vous nous écoutez, joyeux anniversaire. Et à Jackie Stewart aussi. Et sinon, moi, mon cocasse, évidemment, ce sera Yuki Tsunoda et son duct tape qu'on a vu, en fait. Parce qu'évidemment, pour vous mettre dans le contexte, Tsunoda qui roulait sixième.
Très, très bien. Il roulait très, très bien jusqu'à ce moment-là. C'est dommage. Bien.
Il y a une moitié de l'aileron l'aileron arrière entrouvert qui s'est... Ouais.
La partie gauche qui ouvre et la partie droite qui se ferme.
Exactement. Et malheureusement, il a été forcé de rentrer au puits avec un drapeau noir à pastille orange, ce qui est assez rare de voir.
Oh oui, il est très rare.
Et ça veut dire que vous devez rentrer au puits pour réparer cette pièce, parce que ça peut être un signe de danger en piste. Alors, AlphaTauri a juste mis du duct tape pour réparer le tout, mais ils n'avaient pas le choix. C'était quand même un élément dangereux. Et ça,
c'était ça ou l'abandon?
C'est ça. Donc, au moins, bon, c'est quand même une 13e place pour Tsunoda, mais de toute façon, c'était foutu pour le pilote japonais, de toute façon. Mm. C'est assez triste. Donc, on va tout de suite parler de Red Bull, qui quitte Azerbaïdjan au moment où on se parle, avec non seulement une avance de 80 points, mais un gros sourire, surtout avec Max Verstappen, qui accentue son avance au championnat des pilotes.
Et ouais, 21 points d'avance sur Perez et 34 points sur Leclerc.
Ça fait mal, mais vraiment, Red Bull était dans le coup déjà dès le départ, avec un excellent départ de Sergio Perez, qui a pris les devants sur Leclerc. Et Verstappen, pendant les premiers tours, avant l'abandon de Carlos Sainz, talonnait Leclerc de près, mais sans pouvoir effectuer le dépassement possible.
Sans pouvoir effectuer le dépassement, parce qu'il manquait quelques kilomètres heure. On l'a vu, la Red Bull était un peu plus lente dans le deuxième secteur, ce qui permettait à chaque fois à Charles Leclerc de pouvoir prendre une bonne distance et de pouvoir défendre sa position le long de la ligne droite. Donc oui, bon départ de Perez, légèrement inférieur pour Leclerc qui a fait une faute au premier virage, mais après, du moment qu'on a vu l'abandon de Sainz, on a vu un déboulement d'activité se dérouler pendant le Grand Prix. La stratégie assez audacieuse de Ferrari quand même, ouais. Je vous souligner là-dessus. On pourra en parler pour Ferrari dans un instant, mais Red Bull a décidé de jouer beaucoup plus conservateur, je pense. Et la stratégie semble l'avoir payé, mais enfin, on ne le saura jamais puisqu'il y a eu un abandon de l'autre côté du muret. Un autre moment aussi qui aurait pu être cocasse pendant le Grand Prix, c'est vers les deux tiers du Grand Prix, lorsqu'il y a une discussion entre Verstappen et son ingénieur qui lui demande quelle vitesse tu devrais rouler un peu plus lentement autour des 1 minute 40,5. Et Verstappen lui répond en disant « Ouais, mais si je vais à cette vitesse-là, mes pneus vont être trop froids, donc c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce que tu dirais si je roule une demi-seconde plus rapidement? » Donc là, il y a une espèce de jeu de négociation qui se déroule, puis finalement, les deux s'entendent. Donc, imaginez la réaction auprès des autres équipes où l'équipe arrive à négocier le temps de course alors que les autres sont au maximum. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Ça peut être difficile. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, à quel point c'est de l'esbrouf, la discussion qui s'est déroulée, mais c'est quand même assez cocasse. Et ça peut dire jusqu'à un certain point la véracité de ce qui se déroule, mais ça peut être aussi une partie de poker menteur aussi. Ça peut être très intéressant, ce genre de conversation radio.
Ouais, comme dans le temps de la domination de Vettel avec Red Bull, avec Guillaume Roquelin, son ingénieur de piste aussi, qui essayait de justement lui dire ben, « Sébastien, ne fais pas trop de meilleurs tours parce qu'on veut économiser avec la voiture. »
Exact.
Vettel était dominant, donc ça me fait penser un peu à cette période en Formule 1 aussi, avec Verstappen et Gianpiero Lambasi, son ingénieur de course. Donc, vraiment, ça a été... c'était assez drôle à voir aussi, de voir Verstappen et son ingénieur de piste négocier de la sorte. Mais je dois dire que Perez, de son côté, n'a pas eu le droit à négocier lorsque Verstappen l'a dépassé.
Non, il n'a pas eu à le faire. On lui a bien dit de ne pas batailler. Puis finalement, il a laissé la place. Et il a laissé la place en laissant aussi 20 secondes au final du Grand Prix. Mais je pense qu'au final, Verstappen aurait pu sans doute pu le dépasser. Perez a eu quelques difficultés à gérer les pneus arrière, semble-t-il. Ouais. Ce qui est un petit peu étonnant du Silent Talker Tire Dude. Si on peut l'appeler de cette façon-là, même si c'est pas exactement son nom officiel là, qu'on lui donne, mais Tire Whisperer.
Oui.
Voilà. Oui, c'était un petit peu difficile pour Perez, mais bon, il a rempli le contrat, il a fait meilleur tour, fini deuxième, maximise les points pour Red Bull aujourd'hui. C'est ce qu'on veut d'un numéro 2, je suppose, on est le mode parcours?
Oui, si on reprend justement le fait que Perez est le meilleur pilote depuis Mark Webber, ben, il a rempli la tâche à perfection. Et puis même à ça, le fait que tu disais que Perez avait de la difficulté avec les pneus arrière, c'est vrai. Et ça s'est vu aussi avant la voiture de sécurité virtuelle, parce que l'ingénieur de piste de Leclerc disait aussi qu'il avait des problèmes de traction et tout. Donc, ça joue un peu en compte. Et quand Leclerc s'est arrêté lors de la voiture de sécurité virtuelle, ce dernier a été capable de pousser à fond. Donc, je crois que la décision de Red Bull de dire à Checo de ne pas se battre était la bonne, parce que, advenant que Leclerc n'ait pas eu ce problème de cet ennui de moteur, il aurait facilement rattrapé Perez et aurait été peut-être en mesure de dépasser Verstappen, surtout que les deux ne s'étaient pas encore arrêtés. Donc, ça, c'était quand même bien négocié de la part de Red Bull. C'était fait intelligemment. Perez a été très compréhensif. Certes, ça lui fait mal de perdre une victoire possible, mais quand même, c'est un autre podium à Bakou. Perez-Bakou, là, c'est un excellent mélange. Un peu comme, par exemple, Lewis Hamilton ou Michael Schumacher à Montréal.
Oui, exact, tout à fait.
Donc, vraiment, c'est la joie pour Red Bull. Ouf! Chez Ferrari, tu parlais justement de la caméra qui montrait le garage vide et le pit wall vide. Normalement, et pour ceux qui me connaissent, savent que je me serais tellement... J'aurais eu une partie de plaisir à me moquer de Ferrari, mais pas aujourd'hui, parce que ça fait extrêmement mal.
Oui, c'est quand même drôle. Dans l'absolu, c'est drôle.
Ouais.
Mais c'est pas drôle, parce que c'est la deuxième équipe. C'est elle qui va se battre pour la suite du championnat. Ça avait été Red Bull, il domine avec 80 points. Oui, là, ça aurait été très drôle, et tout le monde l'aurait trouvé drôle. Mm-hmm. À l'exception de Marc-André, sans doute. Mais bon, ça, c'est autre chose. Salut, Marc-André. Pour le reste, oui, non, c'est un week-end catastrophique. Ça partait bien sain, ça avait l'air d'être dans le rythme.
Oui.
Ça tenait bien pour une fois. Et puis l'abandon, c'est pas de sa faute. Il accumule les abandons cette saison. C'est l'oiseau noir de l'équipe, mais ici, c'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute. C'est les freins qui lâchent.
Ouais.
C'est la dernière chose que tu as envie qu'il lâche. Ici, c'est les freins. T'as plus envie qu'un moteur qui lâche que les freins. Soyons francs.
Oui. Donc, oui.
La course est intéressante. La stratégie, la contre-stratégie faite par Leclerc suite à l'abandon de Sainz était culottée.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si elle aurait marché.
Ouais.
41 tours avec des pneus durs. Je trouvais la stratégie assez intéressante. Ça semblait très bien marcher parce que Leclerc avait repris en 4 tours 6 secondes.
Oui.
Donc, peut-être que la stratégie aurait marché, en fait.
Oui, exact. Je crois que ça aurait fonctionné, surtout dans l'optique où, bon, advenant que bon, Leclerc était encore en piste et que
ouais,
tu avais la voiture de sécurité virtuelle pour l'abandon de Kevin Magnussen, je crois que...
Il aurait pu sauver un petit peu les pneus. Donc oui, je pense que ça aurait sans doute marché.
Ouais, ça aurait pu marcher, donc vraiment...
Et c'est une super stratégie que Ferrari essaie de développer, mais bon, le moteur a finalement subitement lâché, donc ce qui a permis au Red Bull de pouvoir dépasser. Donc, on s'en était un petit peu parlé pendant le Grand Prix via Messenger, puis on avait un certain doute, puis on disait Ferrari being Ferrari, comme d'habitude.
Ouais. Ouais.
Mais non, je pense que la stratégie aurait marché parce que le pneu dur semblait assez bien marcher, et lors de la deuxième voiture de sécurité virtuelle, c'est pas tout le monde qui s'est arrêté. Oui, les Red Bull se sont arrêtés, mais ça, c'est normal. Tu mènes le Grand Prix, il y a un bon écart, il n'y a plus de Ferrari, ton principal concurrent ensuite, c'est Mercedes.
Ouais.
C'est facile à écraser de Mercedes quand tu es une Red Bull en 2022. Donc oui, tu t'arrêtes, tu changes les pneus, tu joues ça super conservateur, puis après, ben tu gagnes le Grand Prix. Mais c'est pas tout le monde qui a fait un deuxième arrêt, puis on a vu que ça a marché finalement. Donc
ouais,
la Ferrari aurait sans doute pu résister avec 41 tours de pneus durs. J'aurais bien aimé voir ce qu'ils auraient terminé. C'est pas impossible que Charles Leclerc aurait remporté le Grand Prix aujourd'hui.
Oui, définitivement, parce que dans l'optique, où surtout que, bon, à Monaco, on sait ce qui s'est passé. Je crois que cette fois-ci, Ferrari n'avait pas le choix de vraiment jouer la stratégie parfaitement. Quoique l'arrêt de Leclerc a été lent quand même.
Oui, parce que le rear jack, la personne qui doit lever la voiture à l'arrière, n'a pas quand même eu le signal que les pneus étaient changés, étaient corrects. Donc, lui a gardé la voiture, puis on a vu les roues arrière, notamment la roue arrière droite de Leclerc tourner dans le vide. Ce qui semblait vouloir dire à Leclerc, lui, était prêt à partir, mais que la personne qui lève le cric à l'arrière, lui, n'avait pas eu le signal. Donc, ça a coûté 2 secondes et demie. C'est quand même 2 secondes et demie qui est pas si pénalisante parce que ça s'est déroulé pendant la voiture de sécurité virtuelle. Donc, au moins, on peut compenser un peu. Là, c'est pas comme si c'était pendant le Grand Prix sous drapeau vert. Mais n'empêche, ça fait mal, mais ça laisse espoir pour Ferrari la semaine prochaine à Montréal.
Corrige-moi si je me trompe, Jean-Sébastien, mais c'est le Real Jackman, là, est-ce qu'il a pris son Bovril?
Quelle est la blague?
Ok, je l'ai manqué.
C'est quoi la blague?
Non, je voulais dire café, mais je sais pas pourquoi, parce que il était un peu lent dans son exécution, donc je sais pas pourquoi j'ai dit Bovril. Finalement, c'est moi qui ai besoin de café, hein.
Oui, c'est toi qui as besoin d'une petite shot de café avec un petit shot de Bovril en dessous, hein?
Ouais, oui, définitivement.
Bon, c'est pas grave.
On passe à autre chose.
En espérant que ça soit édité, sinon...
Non,
l'éternité.
Non, je pense que je vais laisser ça là pour disons, m'humilier encore une fois. Donc,
Allez, commentez sur les réseaux sociaux, taguez Abdou, taguez le bulletin et moi aussi pour savoir si vous avez apprécié sur une échelle de 1 à L plan.
Wow, ok, ça, elle était 100 fois meilleure. Elle était 100 fois meilleure. Chapeau. Mais celui qui a été meilleur, parlant de... Juste avant de passer à Mercedes, il y a Alonso qui est maintenant officiel, qui détient officiellement le titre.
Le record?
Oui, de la plus longue carrière en Formule 1. Pas mal, il y a 41 ans en plus. Quoi qu'il y a eu...
41 ans et quel baby... C'était diffusé sur la page Facebook de la Formule 1, juste avant le début du Grand Prix. Quel babyface!
Oui!
Oh, il est gros aussi, Fernando Alonso, hein? Gros comme un bébé, en fait.
Ouais. Non, mais c'est fou. C'est fou de dire que il n'y a pas tant changé, là. Tu vois pas qu'il y a 41 ans, là.
Mais... Non. Il est fait bien, il est en forme, il est heureux, puis tant mieux pour lui, félicitations.
Ah oui, félicitations, Fernando, et en plus avec des points aujourd'hui, là, ça se mérite bien. Donc, célèbre, pas tant que ça parce qu'il y a Canada après, là, mais célèbre
oui.
En autant. Mais s'il y a quelqu'un qui risque de célébrer encore plus, c'est George Russell avec sa troisième place à Bakou. Et en plus de ça, il finit encore dans le top 5. C'est bon pour George.
Terminant encore sur le podium, c'est Monsieur Régularité. Au classement des pilotes, il se trouve en quatrième position avec 99 points. Il est à 17 longueurs de Charles Leclerc et devant Carlos Sainz. Que dire de plus, la voiture qui a bien répondu. Lui, il semble bien la maîtriser, contrairement à Lewis Hamilton, quoique aujourd'hui, ça s'est mieux passé, mais le reste du week-end était quand même assez difficile pour Lewis. Enfin, pour Sir Lewis, pour George Russell, lui, la voiture va bien.
Ouais.
Il a du talent. Clairement, on a un futur champion du monde en Formule 1 en lui, si la voiture peut être meilleure. Mais oui, très bonne performance aujourd'hui pour Russell. Ça s'est bien déroulé. Pas d'erreur.
Ouais.
Il n'a pas fauté, non plus en qualification, ça s'est bien passé. Le week-end était super clean. Il y a peu de choses à dire. Quand ça se passe bien, là, il n'y a rien à dire.
Oui. Non, vraiment, il a été parfait. Bon, quoique, il était tout seul dans son monde, soyons honnêtes.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, parce qu'il faut que tu finisses la course quand même. Tu profites
des
occasions qui se présentent devant toi. Qui a été le double abandon des Ferrari, puis il s'est retrouvé là. Donc,
Avant le Grand Prix à Sky Sports, il disait qu'il légitimement pouvait finir cinquième. Il aurait fini cinquième, n'eût été des abandons, il termine troisième, donc il profite d'une course à l'attrition.
Ben, c'est ça. Donc, Russell avait déjà un top 5 assuré du moment où il ne faisait rien de grave. Donc, vraiment, chapeau.
Donc, il sait qu'il est capable de battre son coéquipier.
Oui.
C'est une journée régulière.
Exactement.
C'est ce qu'il mentionne en même temps. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, donc ça, c'est quand même... Ça, c'est quand même...
C'est pas « Oh, je pense finir dans le top 6 ». Il laisse la porte ouverte que Lewis Hamilton peut le dépasser. Il dit « Non, je peux finir top 5 ». Donc, il sait qu'il est meilleur que Lewis Hamilton.
Il a la confiance.
Il a la confiance, puis il a la connaissance qu'il peut finir devant lui.
Exactement. Et ça a rapporté gros en plus. Et non seulement ça aussi, j'ai lu ça sur Twitter. Remarque que son meilleur résultat en carrière, sa deuxième place, c'est dans une Williams.
C'est dans une Williams. Il aurait pu gagner une UTT d'une erreur de Max Verstappen au Grand Prix de Belgique.
Ouais, exactement. Il y a eu un Grand Prix de Belgique?
Officiellement.
Ouais, true.
Mais mentionnons juste une chose pour George Russell.
Ouais.
La dernière fois que Lewis Hamilton s'est fait battre par son coéquipier au terme d'un championnat,
ouais.
C'est arrivé une seule fois en carrière.
Ouais. Ben, je crois qu'il y a eu Nico Rosberg, mais je pense aussi Jenson Button en 2011, si je ne me trompe pas. Donc...
Ah oui, c'est vrai. Alors deux fois.
Ouais, Jenson Button aussi. Ouais, bon.
Mais deux fois quand même en quoi, 14 ans de Formule 1.
Ouais. Puis. À moins que la situation avec le marsunage et d'autres développements arrivent, je serais assez surpris de voir Hamilton finir devant Russell cette saison.
Ouais. Parlons du marsunage pour Mercedes.
Ouh.
Pour Lewis Hamilton, c'était très difficile.
Oui.
Très, très difficile. On sait que Lewis Hamilton se plaint beaucoup généralement dans une voiture. On sait l'histoire des pneus, c'est quelque chose d'assez historique avec lui. C'est assez objectif là, quand même comme remarque. Là. Oui. Lewis Hamilton est assez plaignard pendant un Grand Prix.
Ouais.
Je ne veux pas dire crybaby, là, n'allons pas là, mais il constate beaucoup de problèmes et le remarque. Donc, ça donne l'impression qu'il est plaignard. Et aujourd'hui, c'est plein d'un problème sur sa voiture du marsunage qui lui donnait des maux de dos à un point où il disait la voiture est froide.
Ouais.
Ce qui, vers la fin du Grand Prix, lorsqu'il y a 5-6 tours, il n'y a rien de froid dans une Formule 1. Donc, des maux de dos assez importants. On l'a vu, il y a eu beaucoup de difficultés à sortir. Son équipe n'avait pas le droit de l'aider à sortir de la voiture parce que c'est contre le règlement du parc fermé. Mm-hmm. Je dirais que je suis un petit peu débile là-dessus. Là. Si le pilote est en douleur et il ne peut pas sortir, il faut bien que quelqu'un l'aide. Mm-hmm. Donc, pose la question légitime de le problème de santé qu'on avait relevé lors des essais pré-saison que le marteau-neige pourrait être un problème de santé assez important pour les pilotes. Je pense notamment à des maux de tête, à des problèmes squelettiques, etc. Là, on commence à voir la limite. Je pense que c'est un problème suffisamment majeur pour qu'il y ait une intervention. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est capable de faire quelque chose là-dessus, mais il faut que ce problème se règle. Et le prochain Grand Prix, qui est déjà la semaine prochaine, ne donne certainement pas envie à Lewis Hamilton d'aller rouler, même si c'est un de ses circuits préférés en étant Montréal.
Ouais.
Parce que c'est Montréal, on sait que c'est bosselé, le circuit Gilles Villeneuve. Il y a des trous d'hommes à certains endroits sur le circuit. Il y a des bosses.
Ouais.
Faire le hors-limite à Montréal, ça coûte cher parce que les saucisses sont bien présentes sur les vibreurs. Ça va faire très mal pendant le week-end. Donc, jusqu'à quel point Lewis Hamilton va être capable d'endurer le prochain Grand Prix, je ne le sais pas et je trouve ça très inquiétant pour Lewis Hamilton. Pour Mercedes, je serais encore plus inquiet.
Oui, exactement. Surtout, je vais pas faire d'agisme tout, mais avec l'âge aussi... Parce que
Lewis, il est encore en bonne santé, il a 36 ans.
Il est encore en bonne santé, ça, il faut le dire. Mais parce qu'on l'a vu, comme tu l'as dit, il a eu du mal à sortir. Et puis j'ai vu aussi, Toto Wolff disait aussi en entrevue après la course que les pilotes se sont rencontrés. Tout le monde était d'accord pour dire que le marsunage était un problème et qu'il fallait régler ça. Il y a juste un pilote qui est en désaccord, c'est Fernando Alonso. Pourquoi? Je ne sais pas.
Ah. Bon, Fernando Alonso, lui, aime bien l'esprit sportif de façon générale. Donc, ce qu'on définit, les voitures, elles le sont comme elles le sont. Puis à partir de là, il trouvera toujours une façon de pouvoir s'adapter à la voiture.
Ouais.
Fernando Alonso, c'est l'homme qui a essayé de gagner les 500 000 d'Indianapolis. C'est l'homme qui a gagné les 24 heures du Mans. C'est lui qui fait du rallye raid. Du moment qu'il y a une voiture, puis ça a quatre roues, il y va.
C'est ça. Lui, il va. Il a pas peur. Mais il y a définitivement un problème avec le marsunage qu'il faut régler parce que Dieu merci, on n'a pas eu d'incident relié directement au marsunage.
Jusqu'à date.
Et j'ai pas envie de penser que ça va se produire. Parce que si jamais un pilote devait avoir des douleurs permanentes, ben pas permanentes, mais.
S'il y a des douleurs permanentes, il va y avoir des poursuites.
Ouais, exactement. Parce que c'est quand même jouer avec la santé des pilotes, quand même.
Ah oui.
Donc, vas-y.
Oui, c'est assez dangereux tout ça, quand même. Donc, moi, personnellement, qui est assez sensible, quand il y a un truc qui vibre, quand il y a la caméra embarquée dans le casque du pilote, puis il y a du marsunage, j'ai légitimement mal au cœur.
Ah oui.
Mais c'est parce que je suis très, très sensible.
Oui.
Donc, j'ose imaginer c'est quoi pour le vrai être là-dedans. Ça doit être... Ça doit être insupportable.
Et c'est pas la première fois que des pilotes en parlent, évidemment, parce que là, on met l'accent sur Lewis Hamilton, vu que ça s'est produit aujourd'hui, parce que c'est Lewis Hamilton, mais tu as eu George Russell qui en a parlé, Carlos Sainz.
Les pilotes de McLaren en ont parlé aussi, en long et en large, puis on l'a vu quand au début de la saison, c'était violent.
Oui. Oh oui, surtout chez AlphaTauri aussi, là, c'était...
Aussi.
Oh mon Dieu.
À Bahreïn, c'était dégueulasse.
Ah oui, Bahreïn, en plus. Et puis, Bahreïn, c'est un circuit bosselé, tout autant que Montréal, surtout sur la ligne droite. Donc, j'espère qu'au moins, avec la Formule 1, ils vont trouver un moyen. Parce que c'est sûr que, à moins que la FIA ça intervienne, je ne pense pas que ça va changer. Mais vraiment...
Ça prend du temps de trouver une solution au marsunage, là.
C'est ça, parce que...
C'est un problème aérodynamique de base, là.
C'est ça, parce que c'est quand même de l'effet de sol, on peut dire. Donc,
ça sera pas réglé pour Montréal.
Ah, définitivement pas, et encore moins pour Silverstone.
Non.
Donc...
Ça sera... Et au moins en France, il y aura peut-être pas trop de problèmes.
Ouais. Ça, on va se le dire. À moins que... Non. En France, on espère qu'en France, ça va se régler, là, mais... Ouais, j'ai certainement pas hâte à Montréal la semaine prochaine voir du marsouinage sur la droite du casino. Vraiment pas, là.
Oh non, pas du tout.
Aïe. On va parler de McLaren, tiens, parce que... Oui, Daniel Ricciardo finit devant Lando Norris, mais... On a quand même eu, je crois, si on peut dire, 45% des communications radio qu'on a entendues, c'était McLaren.
Oui, oui, beaucoup de conversations radio entre les pilotes de la McLaren. Termine 8e et 9e, Ricardo termine devant Norris. On a envie de dire, à la limite, jusqu'à quel prix. Ça s'est très mal passé. L'un et l'autre, au début du Grand Prix, c'est Ricardo qui voulait passer devant Norris parce qu'il disait qu'il était capable d'aller plus vite et il l'a fait d'une sorte de métaphore. Plus tard dans le Grand Prix, vers la fin, c'est l'inverse. Il n'y a rien de positif qui sort de là-dedans quand même, soyons francs. Là.
Ouais.
Ça reste des batailles internes pour savoir qui pouvait dépasser Fernando Alonso. J'ai mal compris pourquoi Lando Norris, à la fin du Grand Prix, se plaignait en disant « Je suis plus rapide que mon coéquipier pour dépasser Fernando Alonso. » Alors que si Ricardo avait laissé passer Norris avec 5 ou 6 tours à faire, il aurait fallu qu'il trouve une façon de pouvoir gagner 3 secondes sur Fernando Alonso. Je trouvais que le calcul était un petit peu illogique, donc je me demandais si Norris savait à quel tour il était rendu dans le Grand Prix, parce que c'est quand même demandé beaucoup. Là. Je veux bien que Fernando Alonso lève le pied un peu sur un circuit urbain, là, mais il y a quand même des limites. Donc, ouais, c'est assez particulier. Ça sort. Au final, c'est pas quelque chose qui est super positif qu'on retient, parce qu'on va dire les pilotes entre McLaren se battent. Déjà que l'ambiance entre Ricardo et Norris a pas l'air d'être la plus saine, on sent que Norris s'ennuie beaucoup de Carlos Sainz, et la chimie semble pas très bien se passer avec Ricardo. Ricardo lui se bat pour essayer de garder son siège parce que ses performances sont pas extraordinaires depuis qu'il est chez McLaren. Outre sa victoire qui quand même assit une certaine légitimité, mais disons, outre ça, c'est pas le plus beau des séjours chez McLaren pour l'Australien, mais n'empêche, aujourd'hui, marque les points, finit devant son coéquipier, même si c'est juste par 3e, mais finit devant, marque 4 points.
Ouais.
J'espère qu'il est sur une aire d'aller, parce que j'aime bien Daniel Ricciardo, je l'apprécie beaucoup, et j'aimerais le voir beaucoup plus aux avant-postes qu'il se trouve actuellement, parce que Lando Norris est 7e avec 50 points au classement, et le copain, il est où, lui? Daniel Ricciardo est 13e avec 15. La comparaison est quand même assez dure.
Ouais, et surtout aussi que, bon, si par exemple, en fin de course, Norris voulait dépasser, Ricciardo laissait passer Norris, je pense pas qu'il aurait été en mesure de rattraper Alonso, parce que dans le secteur
3, non.
Là, la Alpine est une fusée dans le secteur 3. Là, donc,
ouais.
Je pense pas que ça aurait été facile de dépasser Alonso dans ce cas-là. Donc, et en plus que Norris était, disons, je pense qu'il s'est arrêté après Alonso. Il s'est arrêté quelques tours après Alonso. Donc oui, il avait des pneus plus frais, mais ça aurait été un peu plus difficile, selon moi, de dépasser Alonso. Donc, McLaren un peu, c'était pas, marque des points, mais c'est pas un week-end vraiment facile. Bon, pour Ricardo, c'est peut-être une victoire morale. À quel point? Est-ce qu'elle est petite, grande? Je suis pas dans les souliers de l'Australien quand même, s'il y a encore de l'alcool dedans, là. celle-là, elle était bonne. Ça, je vais me la donner. Mais je dois dire quand même que je crois que McLaren a quand même bien joué le rôle, mais c'était pas assez, à mon avis, pour aller chercher une place de plus.
Non, vraiment pas. Et la comparaison fait mal au final du Grand Prix, parce qu'il y a quand même une Aston Martin qui finit devant eux.
Oui,
et qui marque 8 points.
Et c'est Sébastien Vettel qui, quand même, est celui qui a marqué le plus de points à Bakou. Et étonnamment, 83 contre 82 pour Sergio Pérez.
Il aime bien le circuit, on dirait.
Oui, hein? Non, les deux aiment le... Ouais, c'est vrai, Vettel.
Oui.
Hein? Il est très en forme sur ce circuit. Bon, à part peut-être 2017 et 2018. Mais il a quand même été bon, malgré le fait qu'il soit parti... Qu'il soit parti à la faute,
puis ça lui a coûté 6 ou 7 secondes à peu près.
Oui, exact. Et il a chuté au 12e rang. Il a chuté au 12e rang en tentant de dépasser Esteban Ocon. Heureusement, il n'a pas eu à faire un 5 points comme Lando Norris l'a fait au cours du week-end. Ou bien faire
exact.
Comme Maverick Raghunathan, qui lui n'a pas été capable de faire un 5 point comme il faut là, en Formule 2. Mais quand même, c'est une belle conduite pour Vettel, qui a été capable d'aller chercher de gros points pour une équipe qui en arrache vraiment cette saison. Et tu le disais avant d'enregistrer, se retrouve maintenant à égalité avec Haas.
Ouais, avec 15 points.
Avec 15 points. Donc, c'est quand même un gros boost pour Aston Martin.
Ouais. N'eût été de sa faute, est-ce qu'il aurait pu finir 5e ou 4e? 5e, je pense.
Oui.
4e, pas sûr. Sky Sport, eux, ont dit oui. Eux, Paul Di Resta, lui, pensait vraiment que Sébastien Vettel aurait pu terminer 4e parce qu'il aurait pu contenir Lewis Hamilton plus longtemps.
Oui.
Je suis pas certain.
Moi, je suis d'accord avec Paul parce que lors de la voiture de sécurité virtuelle, Vettel est revenu devant Hamilton parce que je pense que Hamilton devait composer avec Russell derrière durant la ligne des puits. Oui,
il a été retenu. Il a été retenu pendant 3 secondes supplémentaires en raison du double stacking qui était un petit peu serré.
Ouais, exact. Donc, Vettel est passé devant Hamilton. Puis avec le rythme qu'il avait, moi, je pense que Vettel aurait pu finir 4e. Donc,
ah, c'est dommage, ça, dans ce cas-là.
Ouais. Non, je suis d'accord avec Paul parce que je crois que Vettel a été vraiment bon aujourd'hui. J'ai vu tout le monde était ébloui par son retour en piste. Mais au final, oui, c'est une 6e place, mais ça aurait pu être une 4e facilement.
Ouais, 12 points, ça aurait été géant pour Aston Martin. Mais quand même, finir 6e, c'est une très bonne note aujourd'hui. Là. Il faut vraiment prendre ce résultat et essayer de le transformer pour la suite parce que c'est pas des résultats qui viennent souvent pour Aston Martin. Enfin, on suppose que ça ne viendra pas très souvent parce qu'on est encore en train de découvrir le plateau. Là. C'est pas encore totalement clair parce que le plateau évolue beaucoup de week-end en week-end.
Ouais.
Rappelons-nous, en Espagne, on avait un portrait assez différent du classement par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez difficile à évaluer. Et on suppose aussi que Montréal va encore un petit peu chambouler les choses. Donc, déterminer l'ordre légitime qui est la 4e meilleure équipe et... en suivant derrière, c'est quand même assez particulier. Donc, pour Aston Martin, il faut prendre les points quand ils viennent. Et ça, c'est une magnifique, magnifique performance.
Ah oui, définitivement. Et puis, je crois que si ça peut rendre Aston Martin heureux, là, et surtout Lawrence Stroll heureux une semaine avant son Grand Prix à lui, ça va être vraiment bon. Mais, à l'inverse, son fils.
Oh!
En fait, les deux Canadiens.
La qualification de Lance Stroll était une catastrophe.
Ouais, ça, c'était une catastrophe.
OK, qu'on fasse une faute en qualification, lorsqu'on freine, puis on a de la difficulté, puis ça fait une grosse cloque sur le pneu, très long aussi, décide de continuer et finalement tape à la sortie du virage numéro 2 et est obligé de faire retarder la qualification en raison d'un drapeau rouge. Ouais, c'était pas top, donc donner un petit peu le là pour la suite du week-end. Pendant la course, Lance Stroll, je l'ai même pas vu, soyons francs, et j'avais même pas retenu qu'il avait abandonné au terme du Grand Prix. C'est lorsque tu as donné le classement que j'ai réalisé qu'il avait pas terminé le Grand Prix.
Ouais, donc des problèmes, je pense qu'il a rapporté des oscillations ou quelque chose du genre dans la voiture, donc ce qui a forcé à abandonner.
La voiture oscillait.
Ouais, exactement. Donc, je sais pas si. De toute façon, je pense pas que. Bon, avec une stratégie de pneus durs pour commencer, il y avait quelque chose, mais le rythme n'était pas là du côté de Stroll, honnêtement. Là.
Donc, c'est quand même curieux de commencer la course avec des pneus durs en Azerbaïdjan.
Ouais.
On suppose qu'il va y avoir des accidents.
Ouais, exact. Je pense que c'est ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait au moins une voiture de sécurité. D'ailleurs, même...
Ouais, mais on commence avec des pneus plus tendres, puis on finit avec du dur.
Ouais, exact. Mais je crois que Stroll, j'avais probablement capté ça sur les réseaux sociaux, que peut-être du côté de Stroll, on s'attendait à faire un autre arrêt pour aller justement, en cas de voiture de sécurité, pousser vers la fin. Ça n'a jamais eu lieu, en fait. Donc, et là, de toute façon, Stroll a eu ses problèmes qui l'a forcé à abandonner. Donc, c'était pas une journée vraiment facile pour Lance. Et pour Nicolas Latifi, là, ouh!
Ben, la double pénalité. On commence avec la pénalité de 10 secondes. Le stop and go de 10 secondes en plus. Ouais. Pour, en raison d'un membre de l'équipe qui a touché la voiture avec moins de 15 secondes à faire avant le début du tour de chauffe. Pénalité complètement inexcusable. C'est pas la faute de Latifi ici, mais oh. Williams, ils n'ont pas à faire ce genre de faute-là. C'est totalement inexcusable. Ouais. C'est dommage. Ensuite, la pénalité pour avoir ignoré les drapeaux bleus, ça aussi, c'est vraiment dommage.
Non, c'est ça.
C'est inexcusable, ça aussi. C'est une règle assez facile. Et à Bakou, il y a quand même de la place pour laisser passer une voiture plus rapide que soi là, lorsqu'on est un retardataire. Donc, à partir de là, il faut savoir juste contrôler. Faut savoir gérer le trafic. Latifi l'a pas fait. Et pose encore une fois la question, est-il pertinent en Formule 1?
Je pense que de plus en plus, on parle d'Oscar Piastri pour l'année prochaine. Ça va pas être beau à voir. Ouais. Pendant que Jean-Sébastien va revenir, en fait, on va parler d'AlphaTauri. AlphaTauri qui a finalement connu un bon week-end. L'écurie italienne sœur de Red Bull avec Pierre Gasly qui finit cinquième. Le meilleur résultat cette saison pour le Français et pour l'écurie en tant que telle. Vraiment, comme je disais, c'était finalement un bon... finalement, pas de malchance pour Gasly. Par contre, pour Tsunoda, on l'a vu avec l'aileron arrière entrouvert qui s'est entrouvert à moitié, en fait, du côté gauche, alors...
Il aurait marqué des points aujourd'hui.
Eh oui, Tsunoda aurait marqué des points aussi. Et puis, je dois dire, Tsunoda, cette année-là, il est beaucoup mieux que l'année dernière, évidemment, son année recrue, là. Donc...
Vivre en Italie a fait une différence, clairement. On l'a vu dans le documentaire Netflix. Il est un petit peu en Angleterre. Je pense qu'il l'a ramené plus près de l'usine d'AlphaTauri, permet de pouvoir le recadrer. Il ne faut pas oublier Yuki, il est encore très, très jeune. Là. L'expérience va rentrer très rapidement. Là. La vie en Europe en solitaire va le transformer. Là. Donc, faut lui donner juste un peu de temps. Puis, je pense que ça va être un bon talent. Là. Il est assez brut, là, mais il faut le polir. Puis, il va devenir très, très bon rapidement. Mais bon, c'est la faute à pas de chance.
Ouais, exact. C'est la mécanique qui a juste fauté, en fait, de manière... hasardeuse, donc rien que Yuki pouvait faire, en fait. Alors c'est juste dommage parce que finir cinquième et sixième pour AlphaTauri, ça aurait été énorme.
Donc, oui, clairement.
Ça aurait été vraiment énorme et surtout, je ne sais pas si tu as le classement devant toi, Jean-Sébastien.
Le classement des constructeurs, AlphaTauri aurait pu se rapprocher davantage d'Alfa Romeo parce qu'en ce moment, l'écart, c'est 41 versus 27. On a une vraie bataille pour la sixième position là, et même limite la cinquième, Alpine avec 47. Donc, si AlphaTauri aurait pu marquer davantage de points aujourd'hui, la bataille pour la cinquième place au classement général aurait été un petit peu plus concrète.
Exactement. Donc, c'est vraiment dommage pour Tsunoda, mais d'un autre côté, pour Gasly, c'est une bonne chose. Donc, tu te rends compte, je crois que c'était 8 points pour Tsunoda s'il finissait sixième.
Exact. C'est Sébastien Vettel qui les a ramassés.
Donc, imagine, 27, fait 27, on fait 27 plus 8, ça aurait été 35. Donc,
35.
Ouais,
mais... Donc, ouais, à 6 points d'une sixième place au championnat, à 12 d'une cinquième. Ouais, il y avait une vraie bataille qui en tant que compte. Donc, c'est quelques millions qui vont peut-être faire mal à la fin de la saison. Mais bon, la saison est encore très, très longue.
Ah oui, exactement. Et parlant de longue, ben, c'est terminé. Toyota, as usual, a remporté les 24 heures du Mans. Bien, vient de remporter les 24 heures du Mans. Donc, c'est la Toyota numéro 8. Conduite par actuellement Brendan Hartley avec Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa qui a remporté l'épreuve devant l'autre Toyota, celle avec José María López, Kamui Kobayashi et Mike Conway. Donc, c'est un doublé Toyota. Puis, on a la Glickenhaus avec Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Frank Mailloux qui complètent le podium. Donc, Donc, félicitations encore une fois à Toyota qui remporte le double tour d'horloge. Et je sais que, sans vouloir plugger, en fait, le texte que j'ai écrit sur Michael Fassbender sur Bulletin GP concernant son parcours automobile, eh ben, ça n'a pas été facile pour lui, en fait. Et donc, il finit sixième. Son équipe Proton finit 16e dans la catégorie LMGT-AM. Et il y avait aussi le franco-ontarien natif d'Ottawa, Zachary Robichon, qui termine 16e, en fait. Fassbender a été victime d'un accrochage durant la nuit, en plus de faire un tête-à-queue. Donc, c'est une bonne expérience quand même pour Fassbender, quand même, de compléter la course d'endurance la plus populaire au monde. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de l'avoir fait, au moins. Donc, chapeau quand même à Michael Fassbender. Sinon, dans les autres catégories, en LMP2, Jota avec un certain Antonio Félix da Costa.
Ah!
Roberto Gonzalez, et te souviens-tu de Will the Lad Stevens?
Oh, Will the Lad Stevens, lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui.
Et oui, ben...
Il courait pour qui encore? HRT? HRT, Lotus?
Marussia Manu en 2015.
Ah, Marussia, évidemment, le troisième.
Et il s'est fait remarquer ensuite à cause de son accrochage avec lorsque Romain Grosjean l'avait tenté de prendre un tour ici même à Montréal en 2015. Donc, ouais, ça a été son seul fait marquant en Formule 1, mais il est un vainqueur aux 24 heures du Mans. Et il a terminé devant Prema Orlin Team. Quel est le porte-parole de Orlin?
Non, je ne sais pas.
Robert Kubica.
Oh oui, c'est vrai. Il court en fin de semaine, donc il a terminé deuxième?
Deuxième avec Louis Deletraz et Lorenzo Colombo, donc dans la catégorie LMP2. Donc Kubica finit deuxième. Et je pense l'année dernière, il avait remporté Il avait remporté dans la catégorie en plus. Donc, félicitations encore à Robert qui termine sur le podium. Donc, et finalement, dans la catégorie LMGTO Pro, c'est la Porsche numéro 21 conduite par l'ancien pilote de Formule 1, Gian Maria Bruni, qui a piloté pour Minardi, entre autres, qui remporte... c'est la Porsche numéro 91, pardon, j'ai mal lu, en fait. Donc, la Porsche numéro 91 avec Gian Maria Bruni, Richard Leitz et Frédéric Makowiczki, pardon, désolé pour d'avoir botché la prononciation, qui remporte les 24 heures du Mans dans la catégorie LMGTE Pro. Et finalement, dans la catégorie de Fassbender, la LMGTE AM, c'est TS Sport dans une Aston Martin qui remporte l'épreuve avec Ben Keating, Enrique Chavez et Marco Sorensen, vainqueurs. Donc, ça, c'est ce qui complète les résultats des 24 heures du Mans. Et en Formule 2, parce qu'il y avait une course de Formule 2 aussi ce week-end, dans la course feature, celle qui précédait le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce matin, c'est Dennis Hager qui a gagné sur la Prema devant Logan Sargeant et Filipe Drugovich. Et dans la course sprint, c'est Frédéric Vesti qui a gagné devant Yarun Daruvala et Liam Lawson. À noter que, Jean-Sébastien, je ne sais pas si tu te souviens de la fois où Maher Raghunathan a été suspendu pour avoir atteint la limite des points de pénalité en 2019.
Non, je ne me rappelle pas, non.
Oui, il avait atteint 12 points, à, je pense, au Grand Prix de France.
Oui.
Et là, on a un autre pilote qui a subi le coup. C'est Amaury Cordell. Honnêtement, qui s'est pris encore des points de pénalité pour, je pense, plusieurs infractions lors de la fin de semaine du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc, Cordell a atteint la limite des 12 points et il sera suspendu pour la prochaine épreuve à Silverstone. Donc, il devient le deuxième pilote à subir les contre-coups des pénalités de points, des points de pénalité de 12 points. Et d'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Il est en train de rendre Raghunathan meilleur, en fait, que
Cordell. Ah oui, quand même, ça fait mal, ça.
Ah oui, non. Cordell, c'est pas vraiment le pilote qui a sa place en Formule 2. Et à l'extérieur aussi, il a été pas mal reproché de plusieurs trucs à l'extérieur.
C'est quoi? C'est un équivalent de Benoît Paire du tennis, c'est ça?
Non, pas tant, mais c'est plus parce que il aurait... Bon, je dis ça sous condition, évidemment, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit que Cordell aurait testé des jeunes, des filles mineures.
Oui.
Je m'arrête là parce que je ne vais pas me rendre là, mais ouais. C'était l'année dernière que ces accusations ont fait surface.
D'accord, donc il était, on le met dans le groupe hashtag MeToo.
Ouais, exactement.
Potentiellement, d'accord, ok. Potentiellement,
ouais. Donc, on va arrêter là. Je ne vais pas terminer sur une note très négative.
Hey, moi, terminons sur une note plus positive. Parlons juste un instant de la Alfa Romeo, la nouvelle livrée qui était faite.
Oui.
Cette couleur vert Montréal en hommage à la Alfa Romeo Montréal, une voiture, un concept car qui était présenté lors de l'exposition 1967, évidemment à Montréal, là, ça va de soi. Allez googler Alfa Romeo Montréal et ajouter Expo 67, vous allez voir certains sites internet qui vont vous montrer une rutilante muscle car type américaine vert. Et qui me fait dire que finalement, la Aston Martin n'est pas si belle que ça, parce que cette Alfa Romeo Montréal, elle est magnifique.
Oh oui, vraiment. Et j'espère que, parce que ça fait 55, pour les 55 ans de la Alfa Romeo Montréal, j'espère qu'ils vont la mettre en exposition, juste pour le fun.
Ça serait bien aussi qu'elle fasse un tour du circuit de Gilles Villeneuve pendant le week-end. Hein,
oui.
En hommage.
Ben oui, écoute, ce serait vraiment, vraiment cool, mais...
Alfa Romeo n'est pas très présent en Amérique du Nord quand même. Là. On le voit un petit peu. Là. J'ai vu une Alfa Romeo il y a quelques semaines à Ottawa, mais pour le reste, si on pouvait juste montrer cette voiture-là à tout le monde, une magnifique voiture européenne avec un style américain, c'est à renverser.
Oh oui, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et vert Montréal en plus, là.
C'est magnifique comme couleur.
Oh oui, vraiment. Donc, allez googler Alfa Romeo Montréal. Vous allez tomber en amour avec cette voiture.
Oh oui, vraiment, vraiment. Et oui, ça vaut le coup.
Oh oui, définitivement. Et ça, c'est comme ça qu'on finit sur une belle note.
Hey, je peux ajouter une autre chose?
Oui, bien sûr.
Le Devoir a fait un article sur la Formule 1 intitulé « Les voitures plus que les pilotes ». L'idée, c'est que vous souvenez un petit peu de l'étude de 2019-2020 qui essaie de comparer le ratio pilote versus voiture, savoir légitimement qui était meilleur pilote indépendamment de la voiture. Et donc, Le Devoir reprend un peu l'étude pour la traduire un peu en français et mettre ça en contexte à l'approche du Grand Prix de Montréal. Donc, allez sur le site du Devoir ou achetez le journal Le Devoir, c'est encore mieux. Et vous allez avoir l'article dans le journal papier ou en ligne qui va expliquer l'ensemble de l'étude en français. C'est assez intéressant, ça vaut le coup. Allez lire ça dans Le Devoir. Les voitures plus que les pilotes.
Et je mettrai aussi le lien sur les réseaux sociaux du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix du Canada, qui est d'ailleurs notre prochain rendez-vous. On a hâte, après 3 ans d'attente, après 2 ans d'attente, on peut dire le Grand Prix du Canada arrive à la maison. On avait tellement hâte. Et bon... J'ai hâte de retourner sur le circuit Gilles Villeneuve en configuration Formule 1 parce que ça me manquait.
Les fans sont très fans, sont très respectueux. On a une des meilleures crowds du plateau, on peut le dire en toute légitimité. Là. On connaît bien notre Formule 1 à Montréal. Oui. Et là, avec pas de Formule 1 pendant 3 ans, ça va se sentir.
Oh oui, ça va se sentir, même dès ce...
Dès vendredi matin aux premiers essais, là, ça va se paraître. Même jeudi à la journée porte ouverte, ça va se sentir. Mais vendredi, au premier tour, aux essais libres 1, là, ça va être la folie furieuse.
Oh oui, définitivement. Dès que la première voiture va sortir, ça va crier. Ça va crier,
ça va être la folie.
Oh oui. Et d'ailleurs, on vous prépare justement, jeudi, on va vous préparer un épisode spécial sur le Grand Prix du Canada. Donner un peu notre... Bon, un genre d'avant-course, mais aussi vous donner quelques conseils si jamais vous allez sur le circuit pour la première fois. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, les activités vont venir en cours, mais je vous tiendrai au courant au cours de la semaine sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a bulletingp.com, notre site officiel du bulletin GP, où vous pouvez lire les avant-courses, des chroniques, et même aller dans la section des podcasts pour écouter nos anciens épisodes. Et d'ailleurs, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, donc Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et autres. Peu importe où vous écoutez vos podcasts, on est là. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp. Et on a tellement, tellement hâte de retourner au circuit Gilles Villeneuve parce que ça va être excitant. Donc, on vous prépare le tout pour jeudi pour parler du Grand Prix du Canada, mais aussi pour vous donner quelques conseils sur comment justement vous préparer pour cette fin de semaine de course. Alors, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là.
C'est un vrai plaisir et à très bientôt dans un prochain balado post-Grand Prix. Le mien, ça se peut que tu me vois pour le Grand Prix de France, sinon au retour des vacances en Belgique.
S'il y a une course en Belgique.
S'il y aura une course en Belgique.
Oui, exact. Si, il ne pleut pas, évidemment. Mais on touche du bois, Mais Jean-Sébastien, un énorme merci de ta présence. C'est super apprécié. Et merci à vous de nous écouter. On a été un peu en pause aussi parce qu'on en avait un peu besoin.
Ben, une pause importante avec 22 Grands Prix dans une saison, là.
Ouais, exactement, là. Puis avec notre travail à côté aussi, là. Il faut prendre le temps aussi de se reposer, mais on est toujours content de revenir pour parler de Formule 1 avec vous. Et on se retrouve jeudi pour l'épisode hebdomadaire du bulletin GP. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas d'après-course dimanche. On garde ça pour lundi ou mardi même. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'après-course et jeudi pour la balado du bulletin GP. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et prenez soin de vous. Ciao tout le monde!